Le tandem Europe 1.
Stéphanie Loire, Bruno Donnet.
Comme notre grand comique Fernandel, fumait et offrait les excellentes cigarettes Weekend, goût anglais de la régie française.
C'était en 1938, un an avant la guerre. Fernandel, l'une des plus grandes vedettes de ce que l'on appelait à l'époque le musical, assurait à l'écran la promotion d'une nouvelle marque de cigarettes.
Je connais des gens qui sont très exigeants et qui dépensent beaucoup d'argent pour les cigarettes des pays égyptiens, anglais, belges ou américains. Pour mon estomac, je ne prends que du tabac de la régie française ou de l'État.
Sur l'air de l'un de ses immenses succès, Ignace.
Ignace, c'est un petit nom charmant.
Fernandel vantait donc le doux parfum de la cigarette et ses vertus pour l'esprit.
Week-end, pour l'esprit c'est un délassement. J'adore leur forme fine, surfine, divine. Et je ne fume, ça se devine, que les week-ends au nom charmant.
Eh oui, car il y a 84 ans, fumer était à la fois cool, moderne, viril, en un mot, drôlement batte. Saviez-vous par exemple que dans les années 30 et 40, les deux tiers des acteurs les plus cotés d'Hollywood étaient sous contrat publicitaire avec l'industrie du tabac? Car à cette époque-là, les cigarettiers étaient ultra puissants. Ils finançaient le sport, le cinéma, la télévision et ils étaient partout, y compris là où on les attendait le moins, comme la marque Winston qui fut l'annonceur fidèle de la famille Pierre à Feu, de Flintstone en anglais, un dessin animé pour les enfants.
The Flintstones has been brought to you by Winston, America's best-selling, best-tasting filter cigarette.
Oh bien sûr, tout ça c'était avant le cowboy Marlboro, avant Serge Gainsbourg et son double sans filtre Gainsbar, créé pour enfumer les médias.
La meilleure cigarette est la première de la journée. Et la cigarette après la baisse.
Avant que l'on ne découvre que la cigarette était infiniment nocive et qu'elle tuait un fumeur sur deux.
Il y a des mecs qui ont arrêté de fumer, ils sont morts trois semaines après. J'ai déjà enterré trois quarts du mec.
Avant que la cigarette ne devienne persona non grata et que l'acceptabilité sociale du tabac ne soit totalement consumée. Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir sur le tandem estival d'Europe 1. Et si je dis nous, c'est parce que même lorsqu'il s'agit d'évoquer la cigarette, je partage le taf avec celle qui est chargée de la partie culturelle de cette émission. Bonjour à vous, Stéphanie Loire.
Bonjour Bruno, bonjour à tous, je suis ravie d'être là.
Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et pour observer ce matin l'évolution du regard que nous portons sur la cigarette, vous entendrez ici un ancien ministre qui s'est rendu très impopulaire auprès des fumeurs, un journaliste qui a longuement enquêté sur les pratiques souvent opaques de l'industrie du tabac, mais également une femme dont la parole est rare, la présidente du très puissant cigarettier Philippe Maurice en France.
Tandem sur Europe 1. Bruno Donnet, accompagné de Stéphanie Loire.
Et le tout premier qui va s'installer à bord du tandem ce matin est journaliste et critique de cinéma. On l'a longtemps lu dans la revue Positif, il collabore régulièrement au journal Les Échos, mais il est surtout l'auteur d'un ouvrage passionnant intitulé « Tabac et cinéma, histoire d'un mythe » qui est paru aux éditions Scope. Bonjour Adrien Gombeau.
Bonjour.
Et soyez le bienvenu. Alors vous êtes une mine de connaissances sur notre sujet du jour, parce que vous êtes intéressé à un objet très précis, la cigarette au cinéma. Je vais vous faire écouter un tout premier extrait. On est en 1960. Jean-Luc Godard réalise À bout de souffle. Et voici une scène dans laquelle vous allez entendre Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo.
Comment tu peux savoir que j'ai peur?
Dès qu'une fille dit que tout va très bien et qu'elle n'arrive pas à allumer sa cigarette, eh bien c'est qu'elle a peur de quelque chose.
Adrien Gombeau, quelle a été dans le cinéma de la Nouvelle Vague la fonction de la cigarette?
Ah, je pense que, en tout cas dans À bout de souffle, Jean-Luc Godard rendait hommage au cinéma noir américain qu'il adorait, et notamment à Humphrey Bogart. Il y a toute une scène où on voit Belmondo passer devant un cinéma et essayer de fumer à la façon de Bogart. C'est un plan assez beau d'ailleurs, où la fumée s'étale contre la vitre et recouvre le visage de Bogart. Donc pour moi, dans À bout de souffle en tout cas, c'était vraiment l'idée de retrouver la cinéphilie qu'il avait. C'était son premier long métrage et donc il rendait hommage au cinéma qu'il avait formé, qu'il aimait.
Alors en préparant cette émission avec vous, Adrien Gombeau, on a mis la main sur une archive absolument formidable. La scène se déroule en 1968. L'immense cinéaste Jacques Tati, le réalisateur de Mon oncle des vacances de Monsieur Hulot, est l'invité de Fernand Séguin, qui est journaliste à Radio-Canada. Il lui parle précisément de la cigarette et de ce qu'elle dit de celui qui la fume. Et voici ce que Jacques Tati lui répond. La séquence est un monument d'interprétation.
Rien que la façon de fumer, oui. Vous voyez la nature des gens.
Par exemple, oui.
Bon, par exemple, un homme d'affaires très important, très pressé, la femme élégante, en principe elle ne fume pas, seule, sa cigarette évolue au milieu de la pièce, d'où le travail de l'index. Par contre, chez le fumeur démocratique, intervention du pouce. Vous faites remarquer que les autres doigts de la main ne restent pas inactifs. Hein,
Jacques Tati était un fumeur de pipe. Comment expliquez-vous qu'il ait observé, scruté d'aussi près ses contemporains au point d'être capable de dresser pendant plus d'une minute cette formidable sociologie illustrée du fumeur ?
Mais je crois qu'il observait tout, Jacques Tati. Ce qu'il dit là est tout à fait juste et s'applique à lui quand même. C'est-à-dire qu'il ne considère pas du tout, là, dans l'extrait qu'on entend, la cigarette comme un plaisir lié au tabac, mais plutôt comme un ornement ou un accessoire ou un bijou. Et lui, en tant qu'acteur, il s'en sert pour créer une silhouette et inventer un personnage. Et c'est ce qu'il a fait avec sa pipe. La pipe de Jacques Tati était véritablement un prolongement de son être. Lui était immense et puis il y avait cette pipe tout au bout, un peu comme un point d'exclamation au bout d'une phrase. Et la pipe, c'est une partie de ce personnage, mais c'est une partie essentielle.
Adrien Gombeau, on va maintenant changer radicalement de registre cinématographique. En 1966, Sergio Leone tourne Le Bon, la Brute et Le Truand. Il engage un certain Clint Eastwood et il lui met un cigario dans la bouche.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Comment Clint Eastwood s'est-il retrouvé affublé d'un cigario au coin des lèvres alors que, je précise qu'il était farouchement non-fumeur?
Oui, ça s'est passé quelques années plus tôt. En effet, Sergio Leone engage Clint Eastwood pour une poignée de dollars. Et puis, à l'époque, on ne voyage pas aussi facilement que ça. Donc, il n'a jamais rencontré cet acteur qu'il a juste vu en photo et dans des épisodes de la série Rawhide et divers petits rôles qu'il a pu avoir. Et donc, il voit arriver à l'aéroport de Rome ce jeune américain. Et il est très déçu parce que le gars n'a pas l'air assez costaud pour faire un cow-boy sauvage. Et en plus, il a l'air très propre sur lui. On croirait un collégien américain. Et il ne sait pas quoi faire de ce comédien. Et donc, il lui met un poncho qui va lui élargir les épaules et le rendre un peu plus costaud, un chapeau qui va voiler ce regard trop gentil et un cigario. Et il lui dit, ce cigario, tu ne vas pas le fumer, tu vas le mâcher. Et c'est comme ça qu'il va créer ce rictus redoutable qui va donner ce personnage mythique.
Dans cette émission, Adrien Gombeau, on s'intéresse au cinéma, bien sûr, mais on aime également la musique. Et ça, c'est votre affaire, hein, Stéphanie Loire. Vous avez compilé quelques chansons qui ont fait un tabac.
Et dès 1931, la chanteuse Berthe Silva loue les mérites du gris dans une ritournelle. Alors le gris, c'est un certain tabac, le tabac Scafferlati, qui est vendu emballé dans un papier gris à cette époque.
Et monsieur, une cigarette, une cibiche, ça n'engage à rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ça serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Pour avoir, t'en devines bien la cause. Ce que je te demande, une pipe, un mégot.
Merci pour ce saut dans la préhistoire, hein, Stéphanie Loire. Plus près de nous, en 1980, maintenant, un tube.
Oui, et ce tube, c'est Serge Gainsbourg qui chante « Dieu fumeur de Havane ». Il est accompagné de Catherine Deneuve. Alors, sous l'apparence d'une chanson d'amour, ce titre, en réalité, raconte l'attachement indéfectible que ressent Serge Gainsbourg envers le tabac. Et le duo magnifie littéralement les volutes bleues des gitanes.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu.
fumeur de Havane. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis.
Enfin, il faut noter tout de même que quelques chanteurs ont aussi dit leur dégoût de la nicotine.
Et c'est le cas de M sur son album Le Baptême en 1998. Mathieu Chédid, armé de sa guitare toujours, s'épanche sur la faiblesse du fumeur face à l'addiction. Ici, la cigarette devient bourreau.
Je fume comme je respire. Comme un pompier, non, c'est bien pire. L'oxygène est un vieux souvenir. Mes poumons touchent si tu oses. La pollution n'aide pas les choses. La vie n'est pas toujours très rose.
Adrien Gombeau, je sais que votre domaine d'expertise, c'est le cinéma, mais les chansons, les clips qui portent les chansons, est-ce que d'après vous, ce sont aussi des écrins qui subliment la cigarette au même titre que le cinéma ?
Mais il y a la voix quand même. C'est-à-dire que c'est vrai que les fumeurs ont des voix très particulières. Et Serge Gainsbourg, moi j'ai toujours pensé que c'était une version chanson française d'Humphrey Bogart. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a vu petit à petit se décomposer, être décomposé par le tabac. Et ça s'entend dans l'évolution de sa voix, bien sûr.
Alors on va revenir au cinéma où la cigarette est également très souvent un accessoire formidable pour mettre en scène la sensualité. Et je vais vous faire écouter un extrait de Basic Instinct de Paul Verhoeven. On est en 1992 et Sharon Stone allume une cigarette au moment où elle est interrogée par la police.
Il est interdit de fumer dans cet immeuble, mademoiselle Trammell.
Qu'est-ce que vous allez faire ? M'inculper pour fumage ?
Voulez-vous nous dire la nature de vos relations avec Monsieur Baz ?
J'ai couché avec lui pendant un an et demi. Je n'avais pas peur des nouvelles expériences. J'aime les hommes comme ça. Les hommes qui me donnent du plaisir.
Adrien Gombeau, on a beaucoup parlé des jambes de Sharon Stone, ouais, mais on a oublié ce petit détail.
Ben oui, la mise en scène de Verhoeven est entièrement basée sur la cigarette. Hein. Quand on regarde la succession des plans, la façon dont il s'approche, dont il tourne autour de Sharon Stone, c'est le rythme de la respiration de Sharon Stone qui est matérialisé par cette fumée. Et puis ce personnage, il est vraiment complètement tourné vers le tabac. Hein. Quand il y a cette fameuse première rencontre avec Michael Douglas, la première chose qu'il lui dit, c'est « Est-ce que vous avez une cigarette ?» Lui dit « Non, j'ai arrêté. » Et là, elle sort un paquet de cigarettes pour le tenter. Et c'est comment Catherine Trammell va attirer ce policier vers la cigarette, le faire revenir à ses instincts primaires et évidemment le séduire par le tabac.
Alors on approche tout doucement du terme de notre entretien, Adrien Gombeau, et je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à un très célèbre fumeur de pipe. Le commissaire Maigret qui a été interprété par Bruno Kremer et avant lui par Jean Richard.
Allô, Maigret à l'appareil.
Alors Maigret, c'est un cas très intéressant parce que tout dernièrement, Patrice Leconte a réalisé un Maigret. C'est Gérard Depardieu qui tenait le rôle du célèbre commissaire et Patrice Leconte lui a enlevé sa pipe.
Oui, effectivement, et cette pipe de Maigret, c'est quand même la manifestation de son intelligence quelque part. C'est-à-dire que quand on voit cette pipe, c'est la cheminée, et puis quand il réfléchit, il fume, et on voit son intelligence à travers cette fumée. Et là, il ne peut plus fumer, et donc il est comme paralysé. Et tout le film de Leconte est très beau, parce que c'est un Maigret en fin de vie qui a perdu le souffle qui lui permettait de résoudre ses enquêtes avec une grâce et une intelligence unique.
Un Maigret qui ne réfléchit plus parce qu'il ne fume plus la pipe.
Oui, ou qu'on empêche de réfléchir, au fond, que l'époque empêche de réfléchir. Mais il va quand même parvenir à réaliser cette enquête, cette dernière enquête dans Paris.
Merci infiniment, Adrien Gombeau, d'être venu faire un tour avec nous. À suivre, un homme qui a fait s'étouffer une grande partie des fumeurs et de l'industrie du tabac lorsqu'il a fait voter une loi très répressive qui porte du reste son nom. L'ancien ministre de la Santé, Claude Évin, nous rejoint dans un instant.
Europe 1, tandem. Bruno Donnet, accompagné de Stéphanie Loire.
Le tandem d'Europe 1 qui se consume tout doucement ce matin en explorant l'évolution du regard que nous portons sur la cigarette. Et celui qui va maintenant s'asseoir à nos côtés a fait un mal de chien aux fumeurs, mais surtout à l'industrie du tabac, tout en permettant aux non-fumeurs de respirer enfin à plein poumon dans les lieux collectifs. Il a été ministre de la Santé dans les deux gouvernements de Michel Rocard entre 1988 et 1991, et il est l'auteur d'une loi qui porte son nom. Bonjour Claude Évin.
Bonjour.
Alors c'est vous qui avez interdit la cigarette dans les espaces protégés comme les bureaux par exemple. Et écoutez un peu comment sur France 2, le sémillant Bruno Mazur présentait votre loi le jour de son entrée en vigueur.
Madame, monsieur, bonsoir. À partir de dorénavant, comme l'on dit, les fumeurs sont priés d'écraser leurs mégots. À la veille du jour des morts, les amateurs de cigarettes et de pipes vont devoir faire leur deuil de leur vice favori. C'est en effet aujourd'hui que le décret 92-478, interdisant de fumer dans les lieux à usage collectif, est entré en vigueur. La guerre de la nicotine est-elle pour autant déclarée ? Enquête de Pascal Doucet-Bon et Jean-Baptiste Rivoire.
Claude Évin, qu'est-ce qui vous a motivé à ce point pour porter un coup aussi rude aux fumeurs ?
Comme vous l'avez rappelé, j'ai été ministre en charge de la santé, c'est-à-dire chargé de la protection de la santé de mes concitoyens. Et donc, quand j'ai été nommé ministre chargé de la santé, j'ai été interpellé par des professeurs de santé publique qui sont venus me voir en me disant « Voilà, monsieur le ministre, on ne va pas réussir à éradiquer naturellement la cigarette, mais on peut diminuer la consommation de tabac si on joue sur la publicité, c'est-à-dire si on interdit la publicité. » D'autre part, si on augmente les taxes sur le tabac, et donc il faut sortir le tabac de l'indice des prix, et donc par ailleurs, si on interdit de fumer dans les lieux à usage collectif. Et donc, il fallait pour ça un texte de loi, et ce texte de loi, je l'ai en effet préparé et présenté devant le Parlement, et il a effectivement été publié en janvier 91.
Claude Évin, je vais vous faire écouter un document qui date du milieu des années 60, époque à laquelle on se réjouissait que le tabac soit une source de profit aussi importante pour l'État.
Vous avez vu dans tous vos journaux, avant-hier, que les fumées, mes chers amis, ont rapporté à la France, à l'État français, 300 milliards dans nos caisses.
Oh, merci aux fumeurs.
Comment a réagi votre collègue du ministère des Finances, à l'époque qui s'appelait Michel Charras, lorsque vous lui avez annoncé que vous entendiez encadrer la publicité pour le tabac et interdire la cigarette dans les lieux publics ?
Il n'était pas favorable, d'autant d'ailleurs qu'à l'époque, il y avait une société française qui s'appelait la CEITA, qui était la société État des tabacs et allumettes.
Allumettes, oui.
C'est-à-dire qu'en fait, la production de tabac dépendait directement du ministère du budget.
Est-ce qu'il y a un gros bras de fer entre vous ?
Il n'y a pas eu un bras de fer, formel, au moment de l'adoption du texte, au moment du débat sur le texte. Ce bras de fer, il est un peu arrivé, presque sournoisement. Il est arrivé après.
Comment est-ce que vous expliquez que c'est vous qui l'ayez emporté ?
Je pense qu'il y avait quand même une prise de conscience dans l'opinion. Au moment où les professeurs de santé publique que j'évoquais tout à l'heure sont venus me voir, ils avaient fait procéder à un sondage qui avait été publié dans un quotidien et qui montrait qu'il y avait une assez forte adhésion de l'opinion publique à ces mesures.
Claude Évin, bien avant vous, une femme avait déjà tenté de freiner la consommation de tabac. Elle s'appelait Simone Veil. Elle vous a précédé au ministère de la Santé. C'était en 1975. Néanmoins, elle était beaucoup moins déterminée ou jusqu'au boutiste que vous. Écoutez un peu ce qu'elle expliquait à la télévision. On est en 1975.
Les cinémas, les restaurants, les trains.
Les cinémas sûrement, d'ailleurs, c'était déjà interdit dans la plupart des cinémas. Les transports peut-être, dans certains transports également. Les restaurants, je crois que ce serait...
On n'ira pas jusque-là.
Enfin, je n'envisage pas.
Donc, vous fumez toujours autant ?
Non, beaucoup moins.
Claude Évin, comment se fait-il qu'on ait attendu si longtemps, d'un point de vue politique, pour réagir ? Où étaient exactement les résistances ? Est-ce qu'elles étaient dans les finances publiques, comme on l'a dit tout à l'heure, ou dans les esprits ?
Moi, je crois que c'était dans les esprits. Je crois qu'il y a eu une prise de conscience progressive. Il y a quand même toute une histoire derrière, et c'est vrai que Simone Veil avait déjà posé quelques jalons. Elle n'était pas allée aussi loin. Il y a eu la conjonction, y compris sur les transports, par exemple, un peu avant la publication de la loi. On fumait, même après l'adoption de la loi, on fumait dans les trains, dans les TGV notamment, on fumait dans les voitures 3 ou 13, puisque la loi permettait de fumer dans les lieux qui était spécifiquement réservé pour les fumeurs. Et en fait, la SNCF a passé assez rapidement l'interdiction totale de fumer dans les TGV. C'était un petit peu après la loi, parce qu'il n'avait plus personne qui réservait dans les wagons fumeurs. Donc il y a eu aussi une prise de conscience, je dirais presque économique, du fait qu'il y avait une adhésion très forte de la population pour pouvoir effectivement obtenir ces lieux sans fumée.
Stéphanie Loire, vous avez comme moi une passion absolue pour un chanteur qui a beaucoup fait l'éloge de la cigarette, un certain Serge Gainsbourg, et vous avez mis la main sur un document qui est au cœur de notre sujet du jour.
Et dans ce document, c'est le journaliste Alain Kanz qui s'entretient avec Serge Gainsbourg sur Antenne 2 à propos de la cigarette. Alors Gainsbourg, grand fumeur de gitane, a fait de la cigarette un élément esthétique de son univers. Il aimait autant la nicotine que la beauté du geste. Écoutez-le revendiquer le fait que chacun est maître de son destin.
Il s'est quand même passé une autre chose dans votre vie il y a quelques années. Vous avez eu une crise cardiaque grave.
Ouf, bah, et si c'était grave, je serais plus là. Je fume.
Oui.
J'y crois pas.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire je... Chacun est maître de son destin. Moi, je crois ça. Je suis pas suicidaire, je fume parce que si j'arrêtais, il y aurait tout un métabolisme qui serait foutu.
Claude Évin, est-ce que la résistance de certains artistes dont font partie Serge Gainsbourg et l'image aussi séduisante que la cigarette véhicule dans la culture ont été des freins aux mesures de lutte contre le tabagisme ?
Je ne pense pas que ça ait été des freins. Je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a eu une évolution, une prise de conscience et puis... Moi, je reconnais tout à fait que chacun est maître de son destin. Moi, d'ailleurs, la loi que j'ai fait adopter n'interdit pas aux gens de fumer. Elle intervient sur ce sur quoi la loi peut effectivement établir des règles. C'est-à-dire, effectivement, bon, interdire la publicité, parce qu'on ne peut pas avoir un produit qui est néfaste pour la santé et avoir en même temps une promotion de ce produit par la publicité.
Claude Évin, j'ai une toute dernière question. Depuis celle qui porte votre nom, la loi a encore été durcie. Il n'y a plus aujourd'hui, par exemple, d'espace fumeur dans les restaurants. Si vous étiez ministre de la Santé aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous auriez envie d'aller encore plus loin ?
Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin concernant le tabac ?
Est-ce que vous iriez plus loin ? C'est ça la question que je vous pose.
Moi, non. Parce que je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller plus loin sur le plan strictement législatif ou réglementaire. Par contre, je pense qu'il faut qu'il y ait davantage de communication sur les effets du tabac pour pouvoir effectivement maintenir, si je puis dire, les messages de santé publique, maintenir la pédagogie.
Merci infiniment, Claude Évin.
Merci de m'avoir invité.
Dans un instant, nous allons être rejoints par une femme dont la parole est plutôt rare dans les médias. La présidente du groupe Philip Morris en France, c'est le cigarettier qui fabrique, entre autres, la fameuse Marlboro, se prépare à enfourcher le tandem d'Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, tandem. Bruno Donnet, accompagné de Stéphanie Loire.
Le tandem d'Europe 1 qui poursuit son exploration ce matin de l'évolution du regard que nous portons sur la cigarette. Et celle qui va maintenant en griller une petite avec nous est une femme qui doit avoir pas mal de fil à retordre. Ah oui, elle a une tâche compliquée. Elle doit vendre du tabac dans un écosystème désormais très hostile puisqu'elle est la présidente du cigarettier Philip Morris en France. Bonjour à vous, Jeanne Poès.
Bonjour.
Alors juste pour fixer les esprits, il faut tout de même que je rappelle que Philip Morris, c'est le nom du groupe qui fabrique entre autres les cigarettes Marlboro, et que la part du marché que vous représentez en France se situe entre 40 et 45%. Jeanne Poès, j'ai une première question quand même à vous poser. Est-ce que vous êtes fumeuse ?
Non, je ne le suis plus.
Alors je le disais en ouverture de cette séquence, vous ne devez pas avoir un métier facile, car en très peu de temps, voilà ce qui s'est passé. Dans les années 50, aux États-Unis, la télévision assurait une solide promotion de la cigarette.
Yes, you'll feel better. And here are the reasons why. In case after case, coughs due to smoking disappear. Parched throat clears up. That stale, smoked out feeling vanishes.
Alors, je traduis rapidement, c'est une femme qui va beaucoup mieux. Depuis qu'elle fume, elle a cessé de tousser et tout va bien. Seulement voilà, depuis la loi voulue par Claude Évin, qui vous a précédé dans cette émission, finit la pub et la tonalité est plutôt devenue celle-ci.
Oh, une cigarette écrasée, c'est un peu de liberté gagnée.
Jeanne Poès, comment faites-vous chez Philip Morris pour continuer à vendre des cigarettes dans un contexte devenu à ce point hostile ?
Ben, on s'y prend, on s'adapte à la réglementation du marché. Les produits du tabac en France sont distribués par les bureaux de tabac. Donc, c'est un système réglementé de distribution. Il n'y a pas le droit de faire de publicité, bien évidemment. Seuls nos produits sont présents dans les bureaux de tabac.
Est-ce que c'est une difficulté pour vous, par exemple, de ne pas pouvoir faire de pub ?
C'est une difficulté, non, à partir du moment où la réglementation est la même pour tout le monde. On est dans un marché concurrentiel. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'on vous disait. Effectivement, on est leader sur le marché français avec 44% de part de marché. Mais vous savez qui est notre premier concurrent ?
Dites-moi.
Eh bien, c'est le marché parallèle. C'est le marché, c'est le trafic de la cigarette, puisqu'aujourd'hui, presque 3 cigarettes sur 10 vendues en France viennent du marché de la contrebande ou de la contrefaçon.
Parce que les cigarettes sont très taxées, c'est quoi, 80-85%?
83% sont très taxées, qu'aujourd'hui un paquet de cigarettes c'est devenu un produit de luxe, c'est plus de 10 euros, et qu'effectivement les gens, au-delà de les dissuader d'arrêter de fumer, se tournent malheureusement vers des produits moins chers.
Alors dans cet océan de difficultés, il y a tout de même une bonne nouvelle pour vous, puisque d'après l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2025, il y aura tout de même encore plus d'un milliard de fumeurs dans le monde. Est-ce que vous vous réjouissez du fait que la cigarette est encore de beaux jours devant elle ?
Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle et je ne pense pas que quiconque puisse se réjouir de cela.
Ce n'est pas une bonne nouvelle pour quelqu'un qui vend des cigarettes ?
Non, ce n'est pas une bonne nouvelle.
Vous me surprenez.
Je vous surprends peut-être. Cependant, il faut savoir que je reviens aux investissements qu'on a pu faire pour trouver des solutions. Aujourd'hui, on est dans une transformation profonde de notre cœur d'activité avec notre vision qui est simple. C'est un jour, il n'y aura plus de cigarettes dans le monde. Et nous, on a un rôle à jouer, le fait d'effectivement amener des solutions à la problématique de la cigarette, mais il y a aussi un rôle à jouer par les pouvoirs publics. Et ça, c'est tout à fait quelque chose de possible aujourd'hui.
Jean Paulès, je vais maintenant vous faire entendre un autre spot de publicité. Il est français, il a été réalisé en 2010 par Yvan Attal.
Mesdames, messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. J'attends vos propositions.
Et si on les faisait avaler aux gens ?
Avaler ? C'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte.
Non, 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 à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups.
Mais ça se présenterait comment, votre truc, là ?
Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être.
Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette.
Et ça va nous coûter combien, votre affaire ?
Bah rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ces merdes.
Alors, dans cette publicité, les fabricants de cigarettes dont vous représentez ce matin le leader, Philip Morris, sont dépeints d'une manière on ne peut plus cynique. Comment est-ce que vous faites pour composer avec cette image ?
Écoutez, moi, je, encore une fois, beaucoup de fantasmes autour de ça. Je trouve dommage qu'on s'attaque à l'industrie du tabac. C'est pas parce que vous mettez à mal une industrie que les gens vont arrêter de fumer. À un moment donné, il faut arrêter de croire cela, d'autant plus qu'en France, comme je disais tout à l'heure, vous avez 3 cigarettes sur 10 qui ne viennent pas du réseau légal et qui ne viennent pas des fabricants de tabac. Donc à partir de là, c'est soit on continue de se dire, ben voilà, les grands méchants loups, l'industrie du tabac, ou soit on se penche sur la vraie question que sont les fumeurs.
Alors j'ai lu une petite phrase qui m'a beaucoup surpris et que l'on doit à votre patron, André Kalantzopoulos, qui est le président de Philip Morris pour Le Monde. Il a dit, nous essayons de construire un monde sans fumée, car il anticipe une fin possible, probable, de la cigarette classique d'ici une vingtaine d'années. Comment allez-vous vous y prendre pour survivre économiquement si plus personne ne fume ?
Oui. Alors, André Kalantzopoulos, c'était l'ancien président Monde. Aujourd'hui, c'est Jacek Olczak qui reprend bien évidemment cette vision. On est assez convaincus que c'est possible. C'est possible pour quelles raisons ? Déjà parce que nous avons investi plus de 9 milliards de dollars ces 10 dernières années pour trouver justement des solutions à la problématique de la cigarette, où la problématique vient de la combustion. Et donc aujourd'hui, beaucoup de produits existent qui sont basés sur le fait qu'au lieu de brûler, on chauffe. Que ce soit du tabac, où on extrait la nicotine, ou que ce soit de la nicotine liquide, donc les cigarettes électroniques. Donc ces produits existent. Ils sont sur le marché.
C'est vous qui les fabriquez ?
On en fabrique une partie. D'autres aussi, on n'est pas les seuls à fabriquer. C'est un environnement compétitif assez développé.
Qu'est-ce que vous fabriquez exactement aujourd'hui ?
Alors, on a 2 types de produits. On a du tabac à chauffer et on a aussi des cigarettes électroniques. Donc, en fait, ce sont des produits qui ne brûlent pas. On est sur on chauffe. Et donc, automatiquement, ce sont des produits qui ne sont pas sans risque. Ça, c'est important de le noter. Mais qui sont moins nocifs que la cigarette et qui s'adressent uniquement aux fumeurs.
Quelle différence ça fait de chauffer le tabac plutôt que de le brûler ?
Eh bien, quand vous le chauffez, en fait, la cigarette, comme je le disais, c'est la combustion qui fait que vous inhalez 6000 produits chimiques qui sont nocifs ou potentiellement nocifs. Avec le tabac à chauffer, vous inhalez quand même, attention, ce n'est pas des produits sans risque, mais beaucoup, beaucoup moins. On parle d'en moyenne de 95% de réduction des produits nocifs ou potentiellement nocifs. Donc, en fait, c'est moins nocif. Ça n'est pas, encore une fois, pour des gens qui ne fument pas, mais en tout cas pour un fumeur qui n'arrive pas, il ne sort pas de la cigarette, il vaut mieux passer sur ces solutions.
Est-ce qu'on a suffisamment de recul sur ces produits pour dire qu'ils ne sont pas nocifs ou moins nocifs que la cigarette ?
Alors écoutez, il existe aujourd'hui beaucoup d'études scientifiques, alors pas dépendantes qui sont les nôtres, je comprends le scepticisme autour de ça, mais aussi beaucoup d'études indépendantes. Ne serait-ce qu'en France, on a l'Institut Pasteur qui, il y a deux ans, a mené une étude pour comparer la cigarette, le tabac chauffé et la cigarette électronique, et qui dit qu'effectivement, le tabac chauffé et la cigarette électronique sont beaucoup moins nocifs que la cigarette, sachant que la cigarette électronique est aussi moins nocive que le tabac chauffé. Donc vous avez une graduation.
Vous avez lu le rapport de l'OMS sur la cigarette électronique, il ne dit pas du tout ça. Il dit que c'est quand même très dangereux.
Oui, mais c'est là où, encore une fois, tant qu'on restera dans un débat affectif, émotionnel, qui est tourné sur comment mettre à mal l'industrie du tabac et qui ne met pas au cœur des débats le fumeur, que fait-on pour le fumeur ? Eh bien, on n'arrivera à rien. C'est quand même incroyable aujourd'hui de dire à un fumeur, bah, tu sais quoi ? Bah, tu continues de fumer. Tant pis pour toi, tu continues de fumer, tu vas mourir. C'est soit t'arrêtes, soit tu meurs.
J'ai une toute dernière question pour vous, Jeanne Paulès. Un monde sans fumée, vous y croyez ?
Oui, un monde sans cigarette, c'est possible. Si tout le monde prend sa part de responsabilité, nous, à développer et à investir pour amener des solutions grâce aux nouvelles technologies et la science, et les pouvoirs publics pour s'emparer du sujet, pour avoir une réglementation adaptée et donner de l'information aux fumeurs.
On vous libère. Merci infiniment d'être venu faire un tour sur le tandem d'Europe 1. Bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Europe 1, tandem. Bruno Donnet, accompagné de Stéphanie Loire.
Le tandem d'Europe 1 qui pédale toujours sous un léger halo de fumée, car il explore ce matin les mutations d'un drôle d'objet, la cigarette. Et pour négocier la toute dernière ligne droite de cette émission, nous allons maintenant accueillir un journaliste. Il a longuement enquêté sur les méthodes de l'industrie du tabac et au terme d'un difficile travail d'investigation, au cours duquel il a réussi à recueillir les témoignages de quatre repentis de ce secteur économique ultra puissant, il a publié chez Flammarion un livre au titre plus qu'explicite « Comment la mafia du tabac nous manipule ». Bonjour Marc Lomazzi.
Bonjour.
Pour quelles raisons écrivez-vous que les vendeurs de cigarettes ressemblent à une mafia ?
Eh bien, c'est parce que la mafia, en fait, c'est quatre choses. C'est des familles, des grandes familles qui se partagent un marché. En l'occurrence, là, les grandes familles sont ce qu'on appelle les big tobacco, les big four, c'est les grandes multinationales du tabac. La plus importante, la plus connue, c'est Philip Morris avec évidemment la Marlboro, la cigarette la plus vendue dans le monde. Mais il y a comme ça quatre grandes multinationales. Ensuite, c'est un business qui rapporte évidemment énormément d'argent et qui est basé sur des pratiques occultes, déloyales, voire carrément illégales. Et puis la troisième caractéristique de la mafia, c'est l'omerta. Et ben, c'est ce qui se passe dans l'industrie du tabac, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, bien que concurrents entre eux, s'entendent, passent des pactes secrets. Et évidemment, tout ça est régi par la loi du silence. Donc il faut des repentis, comme vous l'avez dit effectivement, qui acceptent de parler pour qu'on puisse enfin découvrir les dessous de ce drôle de business qu'est l'industrie du tabac.
Bon, alors on parle essentiellement de la France. Hein. Et Stéphanie Loire, vous nous avez proposé tout à l'heure un petit florilège des chansons françaises qui ont enflammé la cibiche. Mais la tendance est également planétaire et pour le moins anglo-saxonne.
On va sortir des frontières de la France, c'est bien ça Bruno. Et j'ouvre le bal avec la chanteuse de jazz Peggy Lee. En 1948, elle enregistre « Don't Smoke in Bed », une chanson reprise plus tard par Nina Simone. Il est ici question de rupture et de cigarette au lit. I'll get a Remember, darling, don't smoke in bed.
Et puis une légende de la musique soul a également interprété un titre en plein dans notre sujet du jour.
Une chanson créée et interprétée par Otis Redding en 1966, cette fois reprise plus tard par Etta James. Alors là, une fois de plus, c'est l'amour qui est mêlé aux volutes de cigarettes dans Cigarette and Coffee. Cigarettes and coffee. And to tell you that, dog, I've been so satisfied.
Blues et cigarettes, un cocktail qui a fait recette, hein, Stéphanie.
En 1984, en effet, on fume fenêtres fermées dans les Chrysler et on a des coups de cœur sur fond de fumée de cigarettes. Écoutez la voix rocailleuse de Joe Cocker dans Long Draft of a Cigarette. Looks like luck's been on your side. Not gone wood. I don't know what or who finally got.
Enfin, les deux frères les plus agités de la pop britannique ont également dédié un tube à la cigarette et pas que.
C'est Oasis qui cumule les mandats. Hein. Cette fois, on fume et on boit. Je vais vous faire écouter le groupe Oasis sur l'album Definitely Maybe en 1994. Et le titre, c'est Cigarette et alcool. Alors, je traduis le propos de l'intro. Est-ce mon imagination ou ai-je finalement trouvé quelque chose qui vaut la peine de vivre ? Je voulais de l'action, mais tout ce que j'ai trouvé, ce sont des cigarettes et de l'alcool. Alors, Marc Lomadi, j'ai une question. Vous l'évoquiez tout à l'heure, les jeunes sont toujours la cible principale de l'industrie du tabac. Mais comment s'y prend-elle aujourd'hui pour continuer à les séduire et les recruter ?
Et bien, par exemple, en mettant en place dans les bureaux de tabac, mais aussi sur Internet, des produits extrêmement colorés, extrêmement aromatisés. Par exemple, les produits à chauffer, l'Aikos de Philippe Poris, pour ne citer que ce produit-là, il y a des arômes de fraises, de chocolat, de glace. On fait de la pub sur TikTok, on recourt à des influenceurs. Donc voilà, et ça marche très très bien.
Alors Jeanne Paulès, qui vous a précédé à ce micro, vient de nous expliquer, pour résumer un peu rapidement ses propos, que Philippe Maurice, qu'elle représente donc ici en France, se contente d'appliquer la loi, que ce n'est pas elle qui la fixe, et que par conséquent, si on estime qu'il y a un problème, eh bien, il faut se tourner vers l'État et pas vers les marchands de cigarettes. Est-ce qu'elle a tort ?
Alors, factuellement, la cigarette n'est pas interdite en France. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas le contester. Simplement, d'abord, il y a une chose qu'on connaît maintenant depuis très très longtemps, qui est que la cigarette, c'est la nicotine. La nicotine, c'est un produit qui est cancérigène, dangereux pour la santé et surtout très addictif. Pour vendre ce produit, l'industrie du tabac n'hésite jamais, je l'ai dit, à enfreindre la loi, parce que c'est un secteur très réglementé.
De quelle façon ?
Et donc, ils n'ont reculé devant aucune méthode que je décris en détail dans ce livre. C'est-à-dire, ils font du trafic d'influence, ils font de la manipulation. Oui, par exemple, en proposant des études bidons aux parlementaires, ils font de la corruption, c'est-à-dire qu'ils ont versé des pots de vin à des buralistes qui ont accepté de jouer le jeu, des buralistes situés près des collèges et des lycées, parce que la cible prioritaire de l'industrie du tabac, c'est toujours, ça a toujours été, et c'est encore aujourd'hui les jeunes, pour une raison simple, c'est que c'est une des seules industries au monde qui tue ses consommateurs. Donc il faut renouveler le stock assez régulièrement, et pour ça, il faut conquérir des jeunes.
Toujours au sujet des propos que vient de tenir la présidente de Philippe Maurice, elle nous a dit que le plus gros de son travail consistait désormais à inventer une alternative à la cigarette dite classique, et il n'y avait donc pas d'espace pour le travail de lobbying. Est-ce que c'est vrai ?
Non, ça c'est complètement faux. Il y a une bataille de lobby intense qui se mène actuellement. Donc en deux mots, ce qui se passe, c'est que les cigarettiers, Philippe Maurice en tête, ont bien compris que tendanciellement la consommation de cigarettes, en tous les cas dans les pays développés, est en train de baisser. Donc on pourrait même voir dans 15 ans ou dans 20 ans des pays comme les États-Unis, l'Angleterre, peut-être même la France, où la consommation de cigarettes classiques va devenir extrêmement minoritaire. Donc face à ça, que font les cigarettiers ? Ils mettent en place des alternatives, mais pour eux, les alternatives, il faut qu'il y ait deux conditions. Il faut que leur produit phare, la nicotine, soit toujours présente et le tabac aussi. Et donc, on invente deux choses. La e-cigarette, le cigarettier, le fabricant de tabac avec un peu de retard, mais finalement, ils se sont emparés de ce marché. Et surtout, un autre produit qui est leur produit aujourd'hui sur lequel ils misent beaucoup, qui est les produits de tabac à chauffer. Leur argument, c'est de dire que puisqu'il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de dégagement de fumée toxique, en quelque sorte, et donc c'est beaucoup moins nuisible que la cigarette classique. C'est un argument qui est faux, ou en tous les cas remis en cause, à la fois par la FDA aux États-Unis, par l'OMS et par la Commission européenne, et puis le Haut Conseil pour la santé publique en France a vivement déconseillé de recommander ces produits de tabac chauffés pour le sevrage tabagique. Pour une raison simple, c'est qu'il reste du tabac, ça reste du tabac, donc c'est aussi nocif. Il reste de la nicotine, donc c'est addictif, et donc c'est à peu près les mêmes défauts que la cigarette classique.
En lisant votre livre, j'ai compris qu'il y avait un gros travail de lobbying qui était organisé auprès des buralistes, par les cigarettiers, mais pas n'importe lesquels. Vous avez évoqué là, il y a un instant, la question des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément comment ça se passe ?
tous ces cigarettiers n'ont pas ou n'ont plus aujourd'hui d'activité en France. Ce qu'ils ont, c'est des armes de commerciaux. Le rôle des commerciaux, c'est quoi? C'est d'aller démarcher les bureaux de tabac, qui, je le rappelle, ont le monopole de la vente de cigarettes en France, de démarcher donc ces bureaux de tabac. Donc ils débarquent dans une ville, ils font une cartographie de la ville. Ce qui les intéresse, c'est le public des jeunes. Donc ils vont voir quels sont les bureaux de tabac qui sont situés près des collèges, des lycées et des facs, voir aussi quelles sont les boîtes de nuit, les bars dans lesquels se retrouvent les jeunes, parce que là aussi on vend des cigarettes, et on va aller proposer aux buralistes qui acceptent de jouer le jeu une rémunération, à condition évidemment qu'ils écoulent leur paquet de cigarettes. Rémunération qui passait d'abord par un système de chèque cadeau. Plus vous vendez de cigarettes, plus, puisque vous êtes situé près d'un collège ou d'un lycée, plus on imagine que vous avez vendu à des jeunes, et plus vous touchez de ces fameux chèques cadeaux. Ensuite, on a abouti à un système beaucoup plus sophistiqué de sorte de cartes de crédit sur lesquelles les buralistes gagnaient des points, cartes de crédit qui étaient alimentées par des systèmes de financement offshore.
Marc Lemazy, je voudrais qu'on aborde maintenant un chapitre purement politique. Si mes informations sont justes, le tabac rapporte à l'État français, grâce aux taxes qui prélèvent, autour de 15 milliards d'euros par an. 15 milliards, ça représente à peu près 20% de l'impôt sur le revenu. Ce chiffre conduit-il les gouvernements, quels qu'ils soient, à s'entendre avec les industriels du tabac?
Ça a longtemps été le cas, effectivement. En gros, ce qui s'est passé, c'est que en 2003, Jacques Chirac décide de lancer le premier plan cancer. Et la mesure phare du premier plan cancer, c'est une augmentation de 40% des prix des cigarettes. Le marché en France s'écroule de 25%. À ce moment-là, les cigarettiers se disent « ça n'est pas possible, on ne peut pas augmenter les taxes qui représentent 80% d'un paquet de cigarettes de manière aussi brutale ». Donc ils vont tout faire pour essayer d'empêcher ça. Et tout faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont réussir à convaincre les douanes, qui sont l'autorité de tutelle, d'adopter un système de hausse régulière, mais toute petite, 20 à 30 centimes par an, du prix du paquet de cigarettes. Avec ce système-là, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que Bercy, le ministère des Finances, touche ces 15 milliards de recettes, parce qu'effectivement, c'est ce que rapporte en France le tabac aux caisses de l'État. Les cigarettiers continuent à toucher leur pactole et même compensent assez largement, grâce à la hausse des prix minime mais régulière, la baisse de la consommation. Et puis les buralistes, qui ont une part importante aussi du prix du paquet. Et ce système-là, entre 2004 et 2014, a tourné comme une horloge suisse et a rapporté des milliards à l'État, aux cigarettiers et aux buralistes. Donc tout le monde était parfaitement content, jusqu'à ce qu'arrive le deuxième plan cancer en 2014, dont la mesure principale était l'augmentation, cette fois-ci pas de 20 centimes, mais de 1 euro par an du prix du tabac, pour arriver très rapidement, ce qui est aujourd'hui chose faite, à la barre symbolique des 10 euros, qui commence à devenir extrêmement dissuasive.
Marc Lemazy, je voudrais vous faire entendre une petite déclaration. On la doit à Nicolas Sarkozy, qui a dit ceci le 4 février 2016.
Un mot sur cette affaire de paquet neutre. Parce que des bêtises, j'en ai entendu dans ma vie. Des démagogies, j'en ai vu. Mais alors, l'affaire du paquet neutre, elle est tout à fait liée à la journée qui nous occupe, mes chers amis. Parce que si nous acceptions le paquet de cigarettes neutre, dans 6 mois, on vous proposera la bouteille de vin neutre.
Quelle forme très concrète le lobbying de l'industrie du tabac prend-elle auprès du gouvernement? Comment font-ils?
Le gouvernement de Nicolas Sarkozy a été probablement le gouvernement le plus pro-tabac. Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy, en sait quelque chose. Elle a un bilan très maigre. Nicolas Sarkozy a été lié de très très près à l'industrie du tabac. Je vous donne un seul exemple. Lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, son principal collaborateur, qui s'appelait Frédéric Lefebvre, travaillait également pour une société de conseil, donc de lobbying, qui s'appelait PIC Conseil à l'époque, et dont le principal client était la CEITA, qui était en voie de privatisation, et donc qui travaillait directement pour l'industrie du tabac. Mais il y a une autre chose, l'argument qu'évoque Nicolas Sarkozy, si vous adoptez le paquet neutre, demain, ce sera l'interdiction de boire du vin à table. Cet argument-là est un argument qui a été forgé de toutes pièces par l'industrie du tabac, et repris mot pour mot, par Nicolas Sarkozy.
Marc Lemazy, j'ai une toute dernière question à vous poser. Lorsque la patronne de Philippe Morris en France nous dit qu'elle rêve à un monde sans fumée, est-ce que vous y croyez?
Oui, c'est exactement ça. Des produits de tabac à chauffer, il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas de fumée. L'entourloupe, c'est qu'on vous promet un monde sans fumée. On ne vous promet pas un monde sans tabac.
Merci beaucoup et bonne journée à vous. Voilà, ainsi s'achève notre épopée matinale. Elle a été préparée par Clémentine Boulard et mise en onde par Julien Blanc. Après la clope, vous allez retrouver le clap de Laurie Choleva. Et quant à nous, Stéphanie Loire, on se donne rendez-vous, bien sûr, ici même, dès samedi prochain.
Pour une nouvelle promenade, je serai là, comptez sur moi. Bonne semaine.
Bonne journée et bel été sur Europe 1.